Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Emmanuel Macron et la grande bascule. Ce type de phrase, on est appelé à les répéter plusieurs fois cette semaine. Elle a été lâchée par le président lui-même en direct devant les télévisions d'infos en continu à l'Élysée à l'occasion du Conseil des ministres de rentrée. Ces termes sévères, graves, employés donc par le président de la République, la grande bascule, mais aussi la fin de l'abondance et la fin de l'insouciance. Nous en parlons avec la politologue et directrice générale de Kantar Public. Bonsoir Laure Salvin.
Bonsoir.
Je vous propose qu'on réécoute avant toute chose Emmanuel Macron ce matin à l'Élysée.
Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. C'est aussi la fin des évidences. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance.
On le perçoit, hein, ce ton grave. C'est un président face aux crises, hein, ce matin, Laure Salvin.
Crise, mais c'est un président aussi qui veut se démarquer de ces crises et qui veut aussi répondre à ses détracteurs. C'est-à-dire que pendant toute la période électorale, on a eu des critiques sur un Emmanuel Macron finalement qui était qu'un président gestionnaire qui avait géré des crises, mais finalement qui n'avait pas eu de projet très fondateur et très réformateur pour la France, alors qu'on l'attendait là-dessus. Hein. Il faut se souvenir, quand il a été élu pour la première fois, Emmanuel Macron, c'était le président réformateur qui allait insuffler un nouveau souffle sur la France. Et donc là, effectivement, il a envie un petit peu de se démarquer de ça en disant, certes, il y a des crises, certes, il faut les gérer, mais il faut aussi passer à autre chose, avoir un cap plus global et puis ancrer son action dans un projet beaucoup plus, mobilisateur aussi pour l'opinion et les Français, plus enthousiasmant aussi que seulement la gestion des crises et des catastrophes.
Le coût de la liberté, des sacrifices à venir, vous trouvez ça enthousiasmant, Laure Salvin ?
Et alors c'est là où en effet je vous rejoins, je suis assez étonnée quand même par son discours, je le trouve très grave, ceci dit la situation est grave, mais je le trouve assez en décalage avec ce que vivent les Français aujourd'hui, notamment quand ils parlent d'abondance, quand ils parlent d'insouciance, quand ils parlent d'évidence. J'ai l'impression au contraire que les Français, ce qu'ils expriment en tout cas hein, dans nos enquêtes d'opinion, ils sont loin de cette insouciance-là. Quand on a plus de 75% des Français qui considèrent effectivement que les choses vont de plus en plus mal en France, pour les Français et pour la France, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'insouciance et beaucoup d'abondance là-dedans non plus.
Mais ça ne serait pas le retour de la pensée complexe du président Macron ? Alors, phrases qu'on a du mal à, qu'on peut interpréter différemment, voilà.
Exactement. Je trouve qu'il a été aussi très, très flou, assez, peu précis dans ses différentes interventions. Il a plutôt justement parlé d'un cadre général, d'une action générale. Il n'a pas été très précis et très concret. Il a parlé donc des pouvoirs illibéraux, par exemple, qui sont ces pouvoirs illibéraux. Il a été très, très vague. Je crois aussi que c'est certainement pour aller vite et imprimer quelque chose de très clair dès le début. Et en gros, ce qu'il veut imprimer, c'est qu'il va falloir faire des efforts et des sacrifices. Et ça, je ne suis pas sûre et certaine, évidemment, que les Français soient prêt à en faire aujourd'hui.
Et on réécoute ce passage sur les régimes illibéraux, c'est le même que sur les sacrifices.
La montée des régimes illibéraux, le renforcement des régimes autoritaires, nous l'avons encore vu dans les discours désinhibés des derniers mois, sont clairs. Et donc face à cela, je pense que nous avons quelques devoirs. Le premier, c'est de dire les choses, de nommer, avec beaucoup de clarté et sans catastrophisme. Nommer le fait que notre liberté, le régime de liberté de vie dans lequel nous nous sommes habitués à vivre, a un coût. Et parfois, quand il faut le défendre, peut supposer des sacrifices, en tout cas d'aller au bout de certaines batailles à mener.
Alors, Laure Salvin, il prend un risque aussi, Emmanuel Macron, celui de nous casser littéralement le moral à une semaine de la rentrée scolaire. Hein.
Tout à fait. Et puis surtout, sans clarifier son propos, parce que certaines mesures, certains sacrifices, je crois qu'Olivier Véran a dû faire un petit peu d'explication de texte derrière, justement, pour cadrer, disons, préciser un petit peu le propos du président. Rapportant d'ailleurs à lundi prochain où plusieurs mesures seront annoncées, soi-disant.
Alors, ce qui attend les Français, c'est évidemment la sobriété énergétique. Est-ce que les Français sont prêts à faire des efforts, déjà qu'on leur en demande beaucoup, en fait, en tout cas, ils ont l'impression qu'on leur en demande beaucoup ces dernières années.
C'est vrai que c'est pas nouveau. Hein. Les Français, ouais, ils ont le sentiment depuis déjà une bonne dizaine d'années, effectivement, qu'ils font énormément d'efforts, qu'on les pressurise, qu'il y a également un manque peut-être d'exemplarité de la part des pouvoirs publics, du collectif, pour enclencher de vraies dynamiques sociétales, notamment dans l'univers énergétique, climatique, etc. Les Français attendent un petit peu plus d'action institutionnelle et collective, avant même qu'on se retourne vers le simple citoyen. Nous, on a, dans nos enquêtes, effectivement, à peu près un Français sur deux nous disent qu'ils n'ont pas les moyens financiers, ne serait-ce que financiers, de faire des efforts en termes d'environnement, etc. Ils n'ont pas les moyens financiers de satisfaire justement cette injonction, je dirais presque, de faire des efforts sur ces sujets-là.
Alors, on le répète à peu près tous les jours, hein, depuis la fin du second tour des élections législatives, Emmanuel Macron n'a plus les pleins pouvoirs qu'il avait lors de son premier quinquennat. Il est contraint à cette majorité relative au Parlement. Ça va être l'épreuve du feu, hein, cette rentrée. Alors, on pense surtout au budget 2023, où on évoque déjà le 49-3. On avait un représentant du Parti des Républicains à midi tout à l'heure sur Europe 1 qui nous disait, traditionnellement, les oppositions, si bien parfois dans l'urgence elles font des compromis, tant sur des budgets généralement elles ne les votent pas. Emmanuel Macron, si la première ministre Elisabeth Borne, hein, si on respecte les institutions de la 5e, déclenche le 49-3, est-ce qu'il y a un risque d'explosion sociale? Il y a ce pronostic également de Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, qui l'affirme, il y aura des grèves en France à la rentrée.
Et je pense que pendant la période électorale aussi, ces crises, elles ont été annoncées. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier et gommer aussi vite les résultats, notamment du premier tour de l'élection présidentielle, hein, où on a vu une abstention quand même énorme, un éclatement aussi des votes. Et donc, c'est quelque part, cette volonté de la part des citoyens de dire « Attendez, là, quand même, il n'y a personne qui nous correspond réellement dans l'offre politique actuelle ». Les gilets jaunes se sont, je dirais, un petit peu endormis pendant la crise du Covid, l'Ukraine, etc. Et je pense qu'ils ne sont qu'endormis, ils ne sont certainement pas disparus. Et c'est vrai que, alors ça peut être effectivement le 49-3 qui peut être un déclencheur à cette crise sociale, mais je dirais plus globalement que de toute façon, toute action politique aujourd'hui est très menaçante et en tout cas, un mécontentement de la population est fort à parier.
Alors, il a aussi besoin, dans ce contexte si particulier de la majorité relative, d'unité, d'avoir une majorité, même si elle est relative, rangée derrière lui. Il a distribué quelques bons et mauvais points, hein, tout à l'heure lors du Conseil des ministres. Il a notamment évoqué de la démagogie.
J'attends aussi sérieux et crédibilité face à de telles angoisses, parfois en tout cas de tels défis. Il est facile de promettre tout et n'importe quoi, parfois de dire tout et n'importe quoi. Ne cédons pas à ces tentations. Celles de la démagogie, elles fleurissent dans toutes les démocraties aujourd'hui. Dans un monde complexe qui fait peur, ça peut toujours sembler séduisant de dire ce que les gens veulent entendre.
Alors là, on ne sait pas exactement de quoi il parle, mais on a quelques idées. Alors Salvin, il doit s'adresser à Clément Beaune, notamment le ministre des Transports, qui a repris une idée du camp écologiste sur les jets privés, réguler leur utilisation pour montrer aussi de façon symbolique que tout le monde doit faire des efforts. Vous l'avez interprété comme ça aussi?
Et je pense aussi que c'est surtout un avertissement en fait à ces ministres. C'est une rentrée, c'est la rentrée des classes un peu. Ça fait très rentrée des classes.
Mais
hein, d'ailleurs,
normalement, les notes, elles viennent une semaine après. Quoi.
Voilà. Non, là, on prévient dès le départ, c'est-à-dire vous connaissez les règles. Voilà. Et je pense en effet que, comme vous le disiez, il a énormément besoin d'unité au sein de son gouvernement parce que justement, il n'a pas de cette majorité à l'Assemblée nationale. Donc, si en plus son propre gouvernement n'est pas uni et, je dirais, très solide derrière lui, ça va être très compliqué pour lui d'apporter ses réformes, de les justifier, de les expliquer et de les faire passer dans un contexte social. Et je pense qu'il en est tout à fait conscient. Et c'est pour ça que sur certaines de ces affirmations, il y a peut-être un petit peu de maladresse, mais il est bien conscient quand même de l'état de la situation et de l'état du pays, aussi de la souffrance des Français. Mais effectivement, il parle de bascule. Voilà, il dit voilà, maintenant, il n'y a plus de transition, c'est assez étonnant aussi. On parlait beaucoup de transition écologique jusqu'à présent. On n'est plus dans la transition là maintenant.
On a basculé.
Exactement. Et puis, il donne aussi un signal à son électorat. En gros, là, il parle à son électorat. Hein, c'est-à-dire, son électorat, lui, il est pour justement le président réformateur et le président réformateur maintenant. Il y a urgence pour son électorat à réformer le pays. Il ne faut pas attendre que, justement, la France soit davantage unifiée ou davantage apaisée.
Alors, certains sondages disent le contraire, que les Français appellent d'abord à l'unification avant de lancer les grandes réformes.
Tout à fait. La majorité des Français espèrent, justement, cette unification et attendent cette unification. L'électorat d'Emmanuel Macron, non, ils sont plutôt pour une action tout de suite.
Alors pourtant, ces dernières semaines, au sein de la majorité, il y a certaines fissures, en tout cas certaines grosses tendances qui se sont apparues. Alors je pense à l'offensive très droitière, je ne sais pas comment vous la qualifieriez, de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui prenait la parole à peu près tous les deux jours. Hein, on l'a vu sur le front des incendies, des rodéos urbains, du fameux imam, si on peut l'appeler comme ça, Iqiyoussen, cette visite à Mayotte également, avec des propositions très fortes en matière d'immigration, de sécurité. Et puis il y a aussi l'aile gauche qui s'est réveillée, le fameux député Sacha Houlier, dont on n'a jamais autant parlé que ces dernières semaines, avec sa proposition de loi sur le droit de vote des étrangers pour les élections municipales. Ça tranche nettement avec ce que dit Gérald Darmanin. Je citerai aussi Aurore Berger et sa proposition de loi pour inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution.
Justement, Emmanuel Macron doit composer avec un gouvernement qui est pluriel. C'est aussi sa marque de fabrique, c'est aussi ce qu'il avait proposé lors de son premier quinquennat. Là, j'ai envie de dire, ça s'accentue un petit peu, effectivement. Mais il était obligé aussi de décider comme ça, de gouverner sur un éventail politique qui est beaucoup plus large finalement que ce à quoi on est habitué. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il demande cette unité-là. C'est-à-dire que même s'il y a des divergences, il faut que malgré tout, les actions du gouvernement soient vraiment soutenues par l'ensemble des ministres.
Rentrée agitée en perspective, aussi bien au sein du gouvernement qu'au Parlement, voire peut-être dans la rue. Merci Laure Salvin de nous avoir éclairé ce soir. Je rappelle que vous êtes politologue et surtout directrice générale de Kantar Public. À très bientôt sur Europe 1. Restez avec nous dans quelques instants. Notre panorama, que se passe-t-il sur le marché de l'immobilier en ces temps de crise? Nous serons avec trois experts, Maëlle Bernier, Stéphane Fritz et Henri Buzicazo. À tout de suite.